9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, au sommaire ce dimanche, Patrick Buisson raconté, dénoncé par son fils, Trump, vu par Nicole Bacharan, Stendhal, Victor Hugo, le match, arbitré par Régis Debray, et Le temps qui passe, chanté par la grande Sophie. Mais d'abord, le terrifiant portrait d'un père et le parcours vertigineux d'un idéologue d'extrême droite, intime de Jean-Marie Le Pen, installé au sommet de l'État, conseiller le plus influent du président de la République, Nicolas Sarkozy. Georges Buisson est mon premier invité.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Georges Buisson.
Bonjour.
L'ennemi, c'est le titre du long récit personnel et politique que vous publiez chez Grasset. L'ennemi, c'est votre père?
Non, l'ennemi, c'est nous. L'ennemi, c'est moi, c'est tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. C'est la façon dont il voit les gens, dont il voit la politique, c'est-à-dire sur le terrain de l'affrontement.
Patrick Buisson, l'homme de l'ombre, inspirateur des deux campagnes présidentielles de Nicolas Sarkozy et de ce que la presse a appelé la ligne Buisson, et dont on a découvert ensuite qu'il enregistrait secrètement ses réunions avec le président de la République, un homme avec qui vous avez rompu violemment, et c'est une partie de ce livre, dont vous montrez le rôle fondamental qu'il a eu dans la progression de l'extrême droite en France, et surtout dans la diffusion des idées d'extrême droite au sein d'une partie de la droite. C'est un intellectuel, un idéologue, un homme d'influence?
C'est un homme qui porte un projet politique depuis 50 ans, qui est de mener l'extrême droite au pouvoir. C'est quelque chose dont il se cachait pas en privé et qu'il a écrit noir sur blanc dans les années 70 dans une revue qui s'appelait Item, où il a écrit « L'extrême droite n'a jamais réfléchi aux moyens de prendre le pouvoir et quand elle a comploté, elle l'a fait au grand jour. » Et lui, il a décidé qu'il était temps de changer.
Toujours aux premières loges, jamais en première ligne, écrivez-vous. Mais il a commencé d'abord comme militant, petite main de la campagne Tixier-Vignancourt en 65, puis, vous le révélez, militant du mouvement Occident pendant ses années étudiantes à Nanterre.
Oui, c'est une appartenance qu'il a toujours cachée, parce que ça mettait d'abord à mal son image de journaliste engagé mais non encarté. Et puis surtout parce que ça mettait au jour un réseau de relations et d'amitiés qu'il préférait cacher avec des personnalités, certaines sont connues. Occident, c'est Alain Madelin, c'est Gérard Longuet, c'est Patrick de Védjean. Mais Occident, c'est aussi François Duprat. C'est aussi...
Duprat, néo-fasciste, qui a accompagné les premiers pas du Front National.
Et c'est plus qu'accompagné, c'est lui qui m'a même porté le Front National, la création du Front National. C'est lui qui a imposé la thématique de l'immigration à Jean-Marie Le Pen. Et sur un plan annexe, mais aussi important, c'est le premier qui, en France, a articulé le discours antisémite, négationniste et antisioniste.
Et qui est mort dans un attentat à la bombe dans sa voiture. Vous racontez le mai 68 de Patrick Buisson quand il défile avec Occident en criant « La France aux Français » ou « Fusiller Cohn-Bendit ».
Exactement, ça c'est un passage qu'on n'a jamais raconté, parce qu'on s'intéresse à mai 68 du point de vue, on va dire, des vainqueurs, donc des gens d'extrême-gauche. Mais la partie d'extrême droite, elle a été complètement mise de côté. À l'origine du déclenchement de mai 68, il y a eu un affrontement entre Occident et la FNEF d'un côté et l'extrême gauche de l'autre.
Il y a toute l'histoire, effectivement, de l'extrême droite renaissante à la fin des années 60 et au début des années 70. Patrick Buisson, c'est un long compagnonnage avec Jean-Marie Le Pen, lequel vous fait sauter sur les genoux, enfant à la Trinité-sur-Mer. Mais ensuite, progressivement, la fréquentation de la droite classique. Alors on voit apparaître Jean-Claude Gaudin, qui propose un poste important, d'ailleurs très vite, à Patrick Buisson. Charles Pasqua. Quand Pasqua explique dans Valeurs Actuelles que la droite et le Front National partagent les mêmes valeurs, interview fameuse, Patrick Buisson n'est pas loin.
Il n'est pas loin, il a quitté Minute, il vient de rejoindre Valeurs Actuelles et continue ce qu'il a toujours fait pendant les années 80, c'est-à-dire rapprocher la droite de l'extrême droite.
Vous racontez la campagne européenne de Philippe de Villiers en 94, où il prend une part très importante, et puis ce qui lui donne visibilité et respectabilité, ses commentaires politiques sur LCI, la chaîne du groupe TF1. C'est comme ça qu'il est repéré par Nicolas Sarkozy et son entourage.
C'est effectivement à partir de son poste à LCI de commentateur politique qu'il retrouve Nicolas Sarkozy une deuxième fois. Il l'avait déjà rencontré en 95, et au cours d'une réunion informelle, Patrick Buisson livre à Nicolas Sarkozy, ça c'est assez connu, la prédiction du score du référendum de 2005. Et là, Sarkozy est bluffé et il l'engage pour être son conseiller. Un conseiller un peu particulier, parce que c'est un conseiller qui en même temps est salarié de TF1 et qui anime sur la CI une émission politique où il reçoit les hommes politiques.
Oui, mais ce sont les réseaux médiatiques qu'il développe aussi à ce moment-là, aussi bien à TF1, vous le racontez, qu'au Figaro, à la rédaction du Figaro, où il va jouer d'un poids considérable.
Hein. C'est ce qu'il avait expliqué dans les années 70, c'est que pour prendre le pouvoir, il fallait d'abord porter un projet politique, mais aussi un projet métapolitique, c'est-à-dire infiltrer les médias, la culture, essayer de gagner les esprits en diffusant les idées. Et pour ça, effectivement, il faut infiltrer ou il faut travailler les médias.
Passer au service de Sarkozy, à ses yeux, ce n'est pas une trahison. Il le dit lors d'un rendez-vous à Montretout, à Jean-Marie Le Pen, en présence de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il dit qu'il continue d'œuvrer aux mêmes idées et de poursuivre l'œuvre accomplie.
Hein. Pour lui, les hommes sont des instruments. Donc ça a été Jean-Marie Le Pen, c'était Philippe de Villiers, c'était Nicolas Sarkozy. Donc les hommes ne sont que des instruments d'une stratégie de conquête.
On sait que c'est Patrick Buisson qui souffle à Sarkozy l'idée du ministère de l'identité nationale lors de sa campagne victorieuse de 2007. Et en septembre 2007, il y a cette remise de Légion d'honneur à l'Élysée. On connaissait quelques phrases prononcées par Nicolas Sarkozy. S'il y a une personne à qui je dois cette élection, c'est lui. Mais vous en publiez, vous, Georges Buisson, de longs passages. On comprend que vous avez enregistré ce discours. Les mots du président sont effarants. Pendant cette campagne, j'ai reçu des centaines de conseils que j'ai été bien avisé de ne pas suivre. Il y en a un seul dont j'ai toujours veillé à suivre les prescriptions, c'est Patrick Buisson. Chaque fois que j'ai dû prendre un virage difficile, risqué, seul Patrick Buisson me disait « Reste fidèle à ce que tu crois, va au peuple ». Vous racontez une assistance effarée. Sarkozy fait de Patrick Buisson le seul et unique inspirateur de sa campagne.
C'est exact, et c'est à ce moment-là que les gens se rendent compte de l'influence qu'avait Patrick Buisson, alors que jusque-là, il était caché.
Mais donc ce là, sera encore plus vrai, et cette fois plus au grand jour, en 2012, hein, pour la campagne
en
de 2012.
Et en 2012, oui, c'est à ciel ouvert, là.
C'est comme ça, dites-vous, que cet homme longtemps infréquentable devient incontournable. C'est cette métamorphose que vous décrivez.
Oui, ça c'est la magie du pouvoir, c'est qu'effectivement, ce qui était une opération d'entrisme, à la base, c'est-à-dire que même si personne n'était au courant, lui voulait faire parvenir l'extrême droite au pouvoir, les idées d'extrême droite, eh bien, en devenant le conseiller principal de Nicolas Sarkozy, il est reconnu par tous et son influence est reconnue et on lui laisse faire.
Deux questions après avoir vu ce parcours rapide. Patrick Buisson est-il fasciste ? Vous employez ce mot à un moment dans le livre, vous parlez du fascisme comme d'un romantisme qui m'a inculqué, écrivez-vous, la détestation du monde.
Alors ça, c'est une posture adolescente. Non, il est plus dans la lignée des contre-révolutionnaires français, il est plus maurassien que fasciste.
Autre question que vous n'abordez pas dans ce livre, est-il antisémite ?
Disons que je ne l'aborde pas frontalement, parce que pour dire ce genre de choses, il faut des preuves. Donc, dans ce livre, je lui donne la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ma parole, il y a aussi la sienne. Il y a les conversations qu'on a eues, des lettres qu'il m'a envoyées. Il y a des mots qui sont assez ambigus. Mais il y a tout de même des éléments, on va dire, qui accréditent cette idée, notamment un compagnonnage de plus de 40 ans avec un homme qui s'appelle Alain Renaud, qui est antisémite et négationniste.
Quelle était pour vous, Georges Buisson, la nécessité de ce livre ?
Je voulais comprendre comment j'étais arrivé là, et pour ça j'avais besoin de comprendre son parcours. Et c'est en remontant effectivement son parcours que j'ai découvert plein de choses sur... c'est pas plein de choses, c'est une seule chose, c'est que depuis 50 ans, Patrick Buisson est de toutes les aventures de l'extrême droite.
Mais ça, vous le saviez
Non. Pas à ce point-là.
Même en travaillant au quotidien avec lui
Pas à ce point-là, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qu'il m'avait cachées, que j'ai découvert. En fait, en confrontant ce qu'il me racontait avec la réalité des faits, avec la réalité historique, il y a des choses que j'ignorais, notamment il y a toute une partie sur mai 68 que j'ignorais. Il y a un certain nombre de choses que j'ai découvert en écrivant ce livre.
Georges Buisson, L'ennemi, ça vient de paraître chez Grasset. Merci.
Merci.
Georges Buisson d'être venu nous en parler.
Europe 1.
À suivre, l'Amérique de Trump et la bataille des démocrates à un peu plus d'un an de la présidentielle. Qui peut battre le Donald ? Nicole Bacharan avec nous dans un instant.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain. Europe 1,
c'est arrivé demain. On se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Historienne, politologue, observatrice passionnée de la société et de la politique américaine. Vous publiez chez Talendier « Le monde selon Trump ». impressionnante collection de phrases, déclarations, tweets, mensonges et fanfaronnades. Ça tient parfois du bêtisier, mais c'est bien plus intéressant qu'un bêtisier parce que ça compose très finement un personnage et une cohérence en phase avec une partie du pays. Ne jamais oublier, dites-vous, que Trump est l'un des visages de l'Amérique. Mais avant d'y venir, je voudrais que vous nous parliez de l'autre Amérique, celle qui rêve de dégager Trump en novembre 2020 et qui se cherche un champion ou une championne. Pour y parvenir, c'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné. On a assisté au deuxième débat avant les primaires démocrates. Il y aura un débat chaque mois jusqu'en janvier prochain. Et franchement, on n'a pas encore le ou la candidate qui fasse rêver. Donc en tête, il y a toujours Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui est un homme tout à fait honorable, qui a fait un très beau parcours, qui a une vraie sensibilité populaire, mais qui n'est pas tout jeune, et puis qui, au fond, si on creuse bien, n'a rien réalisé lui-même. Il a été très longtemps au Sénat, mais sans avoir à son nom une grande loi qui est marquée. Et puis, il a été le second Barack Obama.
Donc, son âge, vous l'avez rappelé, il aura 78 ans au moment du vote présidentiel, 4 ans de plus que Donald Trump. Gaffeur invétéré, souvent hésitant, confus, accusé par plusieurs femmes d'avoir eu la main leste dans le passé. Est-ce qu'il peut vraiment incarner le renouveau de l'Amérique ?
Non, il ne peut pas incarner le renouveau de l'Amérique. Alors ça semble être... Je crois qu'il bénéficie en fait aujourd'hui du fait qu'il est très connu. Son nom est connu partout et que les autres candidats, ce n'est pas leur cas. Le deuxième qui est très connu, c'est Bernie Sanders, qui ne me semble pas non plus incarner le renouveau.
Qui était l'adversaire de gauche d'Hillary Clinton lors de la dernière présidentielle.
Exactement. Et c'est vrai qu'au début d'une campagne, dans cet immense pays où la campagne dure presque 2 ans en réalité, les gens ne sont pas passionnés dès le départ, bien loin de là. Donc les gens dont le nom est connu sont plus cités dans les sondages que d'autres, et je crois que vraiment, les sondages ne nous en disent pas davantage. Et puis, il y a deux femmes qui semblent pouvoir prendre de la place. Elizabeth Warren, qui est la sénatrice du Massachusetts, qui n'est pas toute jeune non plus, elle a 70 ans, et Kamala Harris, qui est quinquagénaire et qui vient de Californie, mais dont la campagne, pour l'instant, ne démarre pas.
Warren est à quelques points dans les sondages de Joe Biden, et donc elle est donnée comme elle est présentée comme une outsider possible.
Et elle pourrait représenter l'accomplissement de quelque chose qui est resté en travers de la gorge des démocrates, c'est-à-dire la possibilité d'élire une femme, puisque Hillary Clinton aurait dû finalement être élue et pour un tas de raisons ne l'a pas été. Elizabeth Warren, ça pourrait être le sentiment que l'on franchit de nouveau une étape historique. Mais elle est franchement très à gauche, avec au centre de son programme ce qui est le débat démocrate, c'est-à-dire la couverture médicale avant toute chose. Et franchement, son programme là-dessus, c'est-à-dire de faire de la couverture médicale américaine un système entièrement public, un petit peu à la française, fait peur à presque 160 millions d'Américains qui ont des assurances privées et en sont satisfaits. La période de transition paraît hyper compliquée et angoissante.
On a parlé des sondages il y a un instant. Rappel toujours utile, surtout se méfier des sondages nationaux qui ne se sont pas trompés en 2016, mais qui ne tiennent pas compte du système électoral État par État. Et se souvenir que Donald Trump avait obtenu 2 800 000 voix de moins que Hillary Clinton, mais 80 000 voix de plus en Pennsylvanie, Wisconsin et Michigan, 3 États qui ont fait basculer l'élection et avec aujourd'hui la même incertitude électorale sur un certain nombre d'États, parfois des petits États, Nicole Bachand.
Oui, vous avez totalement raison de rappeler que le score final se compte État par État. Donald Trump avait joué cette carte-là, ce qu'on appelle le collège électoral, en visant par des visites, par des publicités, en étant aidé, il faut quand même bien le dire, par la propagande russe dans ces 3 États fondamentaux. Ces 3 États, ils restent absolument clés. Ce sont des anciens États industriels où la petite classe moyenne, disons la classe ouvrière, a beaucoup souffert. Les emplois sont pas beaucoup revenus. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté Obama qui ont été déçus, qui ont voté Trump, et donc ils vont être disputés avec une férocité terrible dans l'espoir qu'ils puissent basculer démocrates de nouveau. Mais Donald Trump va vraiment jouer cette carte électorale avec 2 autres États qui me paraissent fondamentaux, la Floride et le Texas, qui peuvent basculer. Alors la Floride bascule une fois sur deux. Oui. Par contre, le Texas, il est quand même ancré républicain depuis les années 80, mais les démocrates progressent. Et si ça basculait côté démocrate, ça changerait le résultat final.
Effectivement, il y a eu un sondage récent au Texas qui montrait que c'était du 50-50. Nicole Bacharan, vous restez avec nous. On marque une pause avant de parler du monde selon Trump. Votre nouveau livre, au fond, expliquez-vous, c'est le monde des cow-boys.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen avec cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec Nicole Bacharan qui publie chez Talendier Le Monde selon Trump, livre qui compile des centaines de citations du président sur la politique, la presse, la vérité, les femmes et d'abord sur lui-même parce que Donald Trump est de loin la personne au monde qui intéresse le plus Donald Trump. Et donc on a beau savoir à quel point ce type est mégalomane et infantile, on est captivé par... la mauvaise foi, la bêtise ou l'incongruité de beaucoup de ces déclarations. Mais vous nous dites, Nicole Bacharan, qu'il faut dépasser l'effet bêtisier parce que ce que dit Trump, c'est ce que pense une partie, voire une bonne partie des Américains.
Oui, moi ce qui m'a intéressé en écrivant ce livre, ça a été d'abord de découvrir en remontant loin dans les citations de Donald Trump, parce qu'il s'exprime dans la presse beaucoup depuis l'âge de 30 ans environ, et de découvrir à quel point il n'avait jamais changé. Donc sa vision du monde, sa vision des gens, sa vision de l'étranger, sa vision de lui-même est la même depuis 40 ans. Donc on le dit imprévisible et au jour le jour, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à la manière dont il va exprimer ce qu'il est, ce qu'il pense, mais c'est dans une ligne qui n'est pas du tout ni imprévisible ni surprenante. Et puis il y a ces 63 millions d'Américains qui ont voté pour lui et dont la plupart continue à le soutenir et qui donc exprime quelque chose de l'Amérique qui va bien au-delà de la personne Donald Trump.
C'est l'un des visages de l'Amérique, dites-vous, et c'est une part de la tradition américaine, celle du cow-boy.
Oui, alors j'ai pris la métaphore du cow-boy peut-être d'une manière un peu injuste pour les braves garçons qui courent après les vaches.
Alors, et du cow-boy, dans les films.
Du cow-boy mythique, disons. Et vous savez ce qui m'a frappé en écoutant, je reviens un instant dans votre émission, en écoutant Georges Buisson, c'est les ponts que je pouvais tracer entre ce qu'il racontait et cette Amérique de Donald Trump. À la fois le personnage Buisson qui considère que tout le monde sont des ennemis, en gros, et Trump, c'est ça. Pour lui, les gens, c'est des obstacles ou c'est des objets. Il n'y a pas d'empathie ni quoi que ce soit. L'immigration comme thème central, absolument. Et le fait que l'extrême droite en 68 ou l'extrême droite ou ce qui ressemble aux États-Unis, c'est une histoire très souvent occultée. Et on a aux États-Unis des tas de traditions, y compris conservatrices, républicaines, etc. Et puis une tradition à la marge que souvent on n'a pas voulu voir et qui est authentiquement parfois fascisante, mais en tout cas ultra brutale, ultra intolérante, ultra axée sur les armes.
Et paranoïaque.
On le sait, paranoïaque, raciste. Et depuis l'esclavage, depuis le génocide des Indiens, mais reprenons plus près de nous l'époque du macartisme avec la chasse aux sorcières contre les communistes et les homosexuels, la violence qui s'est opposée au mouvement des droits civiques pour l'égalité des Noirs dans les années 60. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut tirer le fil avec ces mouvements de suprématie blanche, etc. Alors tous les électeurs de Donald Trump ne sont pas des suprémacistes blancs ultra-racistes, mais ils tolèrent un président, parce qu'ils pensent que peut-être il va faire quelque chose pour eux, qui a un discours raciste et suprémaciste.
Ça c'est sur le fond, et puis sur la forme, sa manière d'être, sa façon de concevoir la présidence américaine et, à votre avis, la clé, c'est de considérer qu'il est resté un homme de télévision. Donald Trump, il y a une citation qui est en quatrième de couverture, d'ailleurs, « Voyez chaque jour de la présidence comme un épisode de show télé dans lequel je triomphe de mes concurrents. »
Exactement. Il n'a jamais évolué. Quand il était promoteur immobilier, d'ailleurs il continue à avoir des deals immobiliers partout, des hôtels à construire, etc., il a construit un personnage médiatique Trump. Il l'a dit très tôt au magazine Playboy, je crois, il a dit « moi je fais le show Trump et tout le reste, les tours, les meubles dorés, les belles filles, etc., c'est des accessoires du show Trump qui est à guichet fermé tous les jours ». Et ensuite il a été pendant 14 ans le héros de cette émission de télé-réalité qui s'appelait The Apprentice, où il jouait le grand patron nommé Trump, autour de qui avait des équipes qui se disputaient, qui se démolissaient les uns les autres, pour avoir une place dans son entreprise.
Il poursuit le feuilleton aujourd'hui.
Il poursuit le feuilleton. La Maison Blanche, on est dans la saison X de sa télé-réalité à lui, et il sait ce que veut la télé-réalité. Je ne dis pas la télé en général, mais la télé-réalité. Il faut des clashs, il faut des gens qui se trahissent, il faut de la dispute, du combat, et il en faut toujours plus, de la transgression, du choc, et pour attirer les caméras sur soi. Et il fait ça, vous le voyez, tous les jours.
Pour terminer, Nicole Bacharan, il y a des centaines de citations dans votre livre, j'ai eu du mal à en choisir. Vous, une ou deux citations qui, en les découvrant dans les archives, vous ont laissé pantoise?
Ah, je pense à deux. Quand il y a eu, dans les années 80, à New York, une jeune femme qui avait été battue et violée à Central Park, et on a accusé 5 gamins latinos et noirs qui ont été condamnés, qui plus tard ont été innocentés. Mais au moment où ils ont été condamnés, Donald Trump, qui était jeune à l'époque, a fait paraître une page entière dans le New York Times pour dire qu'il fallait les condamner à mort. Et plus que tout, il disait « je veux qu'ils souffrent, je veux les faire souffrir ». Ce qui est très particulier comme point de vue. Puis je vous en donne deux autres, allez, pour la route. Allez, une petite. Un pasteur lui demandant « quel est votre verset de la Bible préféré ?» œil pour œil, ce qui est quand même pas mal. Et j'ai oublié la seconde à laquelle j'avais pensé, mais je pense qu'avec œil pour œil, et les nombres de fois où il a dit « j'adore me venger, ça me fait du bien », je crois qu'on a une bonne idée du personnage.
Le Monde selon Trump, Nicole Bacharan, ça vient de paraître chez Talendier. Merci beaucoup Nicole d'être venue nous en parler.
Europe 1.
Régis Debray célèbre Victor Hugo et égratigne Stendhal dans un livre réjouissant du génie français. Régis Debray dans un instant.
Europe 1. 9h-10h, c'est arrivé demain.
Europe 1. De 9h à 10h le dimanche, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen.
Qui de Stendhal ou de Victor Hugo incarne le mieux le génie français? De ces deux géants de la littérature, entre l'auteur de La Chartreuse de Parme et celui des Misérables, quel est le plus grand, le plus emblématique qui mériterait de donner son nom au pavillon français de l'exposition universelle de 2020? Voilà l'objet de ce livre qu'un publicitaire aurait sans doute choisi d'appeler Hugo Stendhal le match, mais comme ce n'est pas du tout le genre de son auteur, cet essai stimulant, souvent éblouissant, s'intitule simplement du génie français. Bonjour Régis Debray.
Bonjour Patrick Cohen.
Pour mettre en scène ce match, vous avez trouvé le prétexte d'une prétendue commande de l'Élysée auprès de la Société des gens de lettres, laquelle aurait eu le mauvais goût de placer Stendhal devant Victor Hugo, soit, mais n'est-ce pas plutôt la référence répétée d'Emmanuel Macron à Stendhal qui vous a titillé ou agacé?
Titillé, surpris. Non, c'est vrai que le fait qu'il ait posé sur sa photo officielle à côté d'un pléiade de Stendhal, à côté de Gide, etc., m'a fait penser que Stendhal était dans l'air du temps. Et qu'il ait demandé ou fait demander à la Société des gens de lettres de voir un peu comment il faudrait appeler le pavillon français à Dubaï, puisque c'est là que ça va se passer dans un an. La GDL a procédé à une sorte de petite loterie, je ne sais pas comment ils ont fait. En tout cas, Stendhal, premier de liste. Alors moi, je me suis dit tout de même, non. Il y a une différence d'envergure entre Stendhal, homme du monde, sympathique, plein d'alacrité, de vivacité, d'ambition, et puis tout de même l'immense Victor Hugo, qui n'a pas fait que des romans, hein, de la chansonnette jusqu'à la légende des siècles, il embrasse tout le père Hugo. Ouais. Si vous voulez, ça m'a semblé symptomatique, Stendhal. Stendhal, c'est tout de même l'homme, je dirais, de l'ambition personnelle. Ouais. C'est un peu l'homme du tout à l'ego, si vous me permettez l'expression. Oui. Évidemment, c'est pas fastueux, mais c'est plein de vie, c'est plein d'allant, allegro, allegro molto.
Oui, il faut dire que dans votre livre, avant de faire l'éloge de Toto, comme l'appelait Juliette Drouet, vous employez consciencieusement à rabaisser Stendhal. C'est un mauvais français, il est autocentré, il n'aime que lui, il ne parle que de lui. Vous comparez même ses romans à des selfies, un événement célèbre en fond de récit et un comparse au premier plan.
Oui, c'est un peu forcé le trait, mettez ça sur le compte un peu d'abord de mon élan juvénile. Parfois, je me laisse aller, et puis aussi,
quelques hyperboles, voilà.
Un peu d'humour. Non, c'est vrai que, au fond, Fabrice à Waterloo, c'est un monsieur un peu qui se met devant la Tour Eiffel et qui se regarde lui-même dans un selfie. Parce que Fabrice, il ne sait pas où il est, il ne cherche pas trop à savoir. Ça l'intéresse parce qu'il se met à l'épreuve lui-même, si vous voulez. Bon, mais l'enjeu historique, ce n'est pas son truc, comme on dirait aujourd'hui. Alors, quand vous regardez la description de Waterloo dans Les Misérables par Victor Hugo, là, vous voyez que tout y est, de Napoléon jusqu'au dernier Truffion.
Oui. Hein.
Et puis tout de même, Hugo, c'était un visionnaire qui était voyant. Hein. Je veux dire que abolition de la peine de mort, sécurité sociale, si j'ose dire, école gratuite et laïque pour tout, il voyait loin.
Oui.
Stendhal était dans son temps et seulement de son temps.
Stendhal, c'est aussi l'ambition, l'envie d'aventure, etc. Oui. À vous lire, on pense à votre parcours. Est-ce que c'est pas ce qui vous a animé dans votre épopée sud-américaine quand vous partez à Cuba, puis en Bolivie, derrière Che Guevara? Vous n'avez pas rêvé d'être un héros chevaleresque à la façon de Fabrice Del Dongo?
Je confesse que oui, mais j'ai tout de même dépassé ce point de vue assez vite, qui serait un point de vue un peu narcissique, si vous voulez. Moi, je crains beaucoup le narcissisme. Alors, c'est vrai que tout adolescent qui en veut, comme on dit, il se fantasme en héros chevaleresque, un peu stendhalien, mais très vite, on découvre qu'il faut s'effacer devant des enjeux plus grands que nous.
Alors, c'est un livre brillant, Régis Debray, mais vous l'avez souligné vous-même, à ne pas prendre entièrement au sérieux. Vous avez le sens du dérisoire, en déplorant notamment que les écrivains aujourd'hui ne comptent plus ou si peu. Je vais vous citer, Régis Debray, « L'ouvrage relié pleine peau et la chauffeuse près de la cheminée ont déjà rejoint l'écomusée car nous avons muté en rejetant de l'image et du son. Branchez votre radio, ouvrez votre télé, lisez les nécros. Celui ou celle qui nous a quittés à l'âge de 81 ans à la suite d'une longue maladie, c'est le comédien, le chanteur, le rocker, non le poète ou le romancier. Le point de mire fait l'ouverture du 20h et des nouvelles à la radio parce qu'il y a des images à faire défiler, alors qu'avec nous, les plumitifs, la flatteuse rumeur n'a rien à se mettre sous la dent, en sorte que notre trépas reste clandestin, expédié en page 13 de notre quotidien préféré, dans un « en bref », c'est la loi sous l'audiovisuel, on n'y peut rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de cafard, Régis Debray ?
C'est pas un coup de cafard, c'est un constat. Je n'accuse personne. Nous étions avant dans le culte de l'écrit, nous sommes aujourd'hui dans le culte de l'image et du son. Patrick Cohen est un des prêtres de ce culte. Et c'est très bien, je constate qu'il y a un changement technique, tout simplement. C'est pas qu'on est mauvais ou pire, c'est que aujourd'hui, la caméra et le micro font les réputations. Une image peut détruire une réputation. Au temps de Hugo, il fallait écrire la légende des siècles pour, je dirais, pour pouvoir convoquer du monde autour de soi et autour de son cercueil. En tout cas,
et dans la foule, soulignez-vous, il n'y avait pas de haute forme, il n'y avait que des casquettes.
Bah oui, parce qu'il avait le contact avec le populo, il s'était, on pourrait dire, un populiste. On l'aurait taxé de populiste aujourd'hui, parce qu'il avait, si vous voulez, il avait le sens de la rue, le fait que les foules, ça compte. Et il disait même, la canaille, parfois, c'est le commencement du peuple. Ouais. Hein. Il était un peu gilet rouge à sa façon, sans illusion. Hein. Ne pas oublier que, quand il dit le peuple, ça inclut les Thénardier aussi.
Oui.
Hein, il n'y a pas que des anges dans le peuple. Mais il avait tout de même le sentiment que c'était la grande force motrice, si vous voulez, qu'on retrouve alors dans Notre-Dame de Paris aussi au moment du Moyen-Âge, mais qu'on retrouve surtout dans Les Misérables, qui est pour moi le roman essentiel de notre temps. Je le trouve formidablement contemporain. Et j'aimerais, pour tout vous dire, que Hugo, j'aimerais que... Vous savez, en Angleterre, la date de naissance de Shakespeare, c'est une fête nationale.
Ah oui.
Ouais. Le rôle de Cervantes en Espagne, de Goethe, le Goethe Institut. Nous, on n'a pas d'institut, oui. Victor Hugo.
Il est au Panthéon tout de même.
Ah bah, tout le monde.
Il est au Panthéon, vous, ce que vous appelez le réfrigérateur national.
Le réfrigérateur national, oui, c'est un peu méchant, mais on met beaucoup de monde au Panthéon. Non, mais Victor Hugo est un non-conformiste, il faut le dire. Le problème, c'est qu'on en a fait un monument. Alors, les monuments, c'est un côté un peu pompeux, ennuyeux, solennel, et on oublie de rentrer dans le monument.
Alors, je vous propose d'entrer dans le monument pour terminer cette interview. On va écouter ensemble un peu de Victor Hugo. C'est un extrait de La Légende des siècles, Les pauvres gens.
Il est nuit. La cabane est pauvre, mais bien close. Le logis est plein d'ombre. Et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur. Au fond, dans l'encoignure où quelqu'un le vaisselle aux planches d'un bahut vaguement étincelle. On distingue un grand lit aux longs rideaux tombants. Tout près, un matelas s'étend sur de vieux bancs, et cinq petits enfants, nids d'âme, y sommeillent.
Les pauvres gens, lu par Louis Seignet, Régis Debray, c'est le Hugo que vous aimez?
Oui, il est là peut-être un peu solennel, mais c'est un très beau texte. On lit plus trop la légende des siècles. C'est vrai qu'on est un peu brouillé avec les Alexandrins. C'est plutôt le prosateur qui est très contemporain pour nous. Vous savez, par exemple, vous êtes journaliste.
Oui.
Donc, pour vous, je crois, les choses vues...
Les choses vues, c'est formidable.
On ne peut pas faire mieux. Les choses vues, c'est un modèle... Pour vous et pour moi. Non, moi c'est trop tard, mais vous, tout est possible.
Bon, c'est le message de relisez, relisez Victor Hugo et du génie français qui vient de paraître chez Gallimard. Merci Régis Debray d'être venu nous en parler.
Merci à vous, Patrick. Europe 1.
Et dans un instant, la grande Sophie nous présente son nouvel album Cet instant. À tout de suite.
Europe 1. Vous êtes avec Patrick Cohen jusqu'à 10h pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Sur la pochette de son nouvel album, son visage est masqué par une vitre brisée et dans la chanson qui donne son titre à l'album, il y a un miroir que la grande Sophie a envie de briser.
Au début, tu te colles le visage au miroir qui te parle, qui te dit qui tu es. À cet instant précis, tu te vois à la loupe, tu te vois, tu redoutes ton visage, ton image, ton reflet. Et puis l'instant d'après, tu te dis, j'ai changé. Tu te penches, tu te passes la main pour vérifier. Sur ta peau qui chiale, sur ta peau trop pâle, qui se creuse, qui te blesse. Et là, tu encaisses. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part, quelque part, mais trop tard. C'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe. Tu sens
cet instant par la grande Sophie, extrait de son nouvel album. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous avez vraiment envie de casser vos miroirs?
C'était une image surtout que je voulais, assez poétique, que je trouve poétique. Je voulais cette brisure qui marque le temps en fait. Je voulais que ça ait un impact aussi, parce que comme le dit la chanson, parfois on prend son miroir et puis il y a des choses qui arrivent, qui sont la vie d'ailleurs, des choses naturelles.
Et qui vous déplaisent.
Et puis, on se pose tout un tas de questions, on se scrute, et je trouvais ça intéressant de dire en fait ce qu'on ressentait vraiment au fond de soi.
Ouais.
Ne pas se le cacher, mettre des mots.
On peut dire que ça vous obsède un peu quand même, la fuite du temps et ses effets sur nos organismes. J'irais sucrer les fraises là-haut sur la falaise, c'était dans la place du fantôme. Tu fais ton âge sur le
oui,
même
c'est
album.
Vrai. C'est une obsession. Mais je dois dire que sur cet album particulièrement, cet instant, je m'en rends davantage compte. La société fait peser ce poids de l'âge. Par exemple, sur cet album, j'ai beaucoup entendu parler de jeunisme. Alors, j'avais jamais entendu ce mot à mon sujet. Au départ. Et puis je me suis dit, mais pourquoi on me parle de ce mot-là? Donc effectivement, on prend son miroir, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, tout allait bien, mais pourquoi?
Votre disque, La Grande Sophie, c'est comme dans la vie, il y a des coups de moins bien, comme quand vous chantez a cappella, quelque chose en vous me rappelle qui j'ai été, quelque chose qui ne reviendra jamais. Et puis il y a des coups de mieux, quand vous invitez, dès le début de l'album, à profiter de la vie.
Ne soyons pas ridicules. Voyons-nous encore demain. Une vie, on n'en a qu'une. Toi et moi, prenons-en soin. Ne soyons pas ordinaires. Droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une. Des chagrins, on en a plein. Toi,
une vie, on n'en a qu'une. Des chagrins, on en a plein.
Un contraste. Pour savourer la vie avant tout, pour moi cette chanson c'est un hymne à la vie.
Ouais.
Même par exemple une personne qui va se plaindre à juste titre ou sinon juste pour râler, c'est pour moi une preuve de vie. Donc je m'amuse avec les mots et puis savourer un petit détail, un petit moment qui peut faire un grand bonheur aussi.
Des chagrins, oui, mais vous nous montrez ensuite que l'amour peut résister au temps qui passe. Vous le chantez dans Nous étions, le temps ne nous a pas trahis. Encore fidèle, aujourd'hui, nous unit.
Alors le temps, je lui en veux souvent parce que j'arrive pas à l'attraper, parce qu'il est très furtif. Et là, pour le coup, je trouve qu'il a pris soin de ma relation. Je parle de ma relation amoureuse avec la personne, mon mari, avec qui je vis depuis très longtemps, 30 ans. C'est beaucoup et je trouvais que ça méritait une chanson parce que c'est une jolie histoire. Et qu'il faut savoir aussi parler, pas uniquement de rupture, mais aussi savoir parler du bonheur aussi. C'est important, ça existe aussi.
Alors le paradoxe, c'est que l'âge venant, votre musique n'a jamais été aussi... Alors comment dire, j'avais écrit jeune, mais non, pas jeune.
Alors, on enlève tout ça.
Alors non, pas jeune. Alors disons dans l'ère du temps, oui. Moderne, contemporaine.
Voilà, ça comptait ça pour moi, puisque quand j'ai travaillé avec les deux réalisateurs, Sayam et Sébastien Berthaud, je leur ai tout de suite dit, moi ce présent j'y tiens, je veux un son actuel, mais je veux un son qui me ressemble.
Donc, actuel, voilà.
C'était important de ne pas repartir dans le passé. Je voulais entendre des sons actuels et après qu'on les bidouille pour qu'ils soient à mon image. Voilà.
Démonstration avec ce titre sur lequel il n'est pas interdit de danser.
Sur le papier, et j'ai laissé la carte postale s'envoler et puis se noyer. Un clair de lune, un ciel pluvieux, j'ai vu rougir ton visage pâle quand cette phrase m'a échappé.
Missive, la grande Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez envie d'une chanson pour danser sur votre fête d'anniversaire?
J'aime bien qu'il y ait des contrastes dans un album. Alors là, je passe de l'a cappella à effectivement un titre où on peut danser, mais c'est aussi l'histoire de quand on se retourne et qu'on regarde un petit peu dans le passé, quand on jette des coups d'œil, on se dit, mais à ce moment-là, si j'avais tourné à droite et pas à gauche, peut-être que ça ne serait pas cette vie-là. Donc voilà, ce genre de clin d'œil aussi.
Musique actuel, vous l'avez dit, mais dans ces chansons, la voix reste devant, vous n'êtes pas noyé dans les sons, on écoute vos textes.
J'entendais beaucoup à mon sujet, la grande Sophie, les mélodies, et puis je me suis dit, en fait, mes textes, ben, on les écoute pas, ma voix, on s'en fout, je me suis dit, j'étais un peu parano, là. Donc, j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la voix et le texte, et j'ai voulu aussi changer mon phrasé, parfois, ne pas être beaucoup moins mélodique, pour qu'on fasse plus attention à ce que je dis, certainement, oui.
Vos textes, votre voix, votre rythme, oui. Votre flow sur ce titre, hier, vous n'êtes pas très loin du rap.
Vous trouvez... Demain me réclame et me promet toujours. Demain, l'incertain, demain, un autre jour. Demain, je sais bien que demain, je peux imaginer, envisager, rêver. Demain me projette, demain, c'est l'espoir. Demain, je m'inquiète, mais je dirai au revoir.
Hier, par la grande Sophie, grande mais nouvelle. Vous n'aviez jamais chanté comme ça?
Alors, pour moi, il y a une suite avec quand j'avais chanté Du Courage.
Oui.
C'était. On me disait parfois que je saccadais beaucoup mon texte. Donc, c'est un prolongement. J'ai d'autres titres comme ça qui sont. Où hier, en fait, c'est plutôt hier qui est le prolongement de ces titres-là.
La tournée, ça va commencer. Le Trianon bientôt, mais c'est complet. Vous serez à Nantes le 30 octobre, Bordeaux le 7 novembre, Rennes le 8 novembre, Brest le 9 novembre et encore à Marseille, à Toulouse, à Lyon. Et puis il y a une date à l'Olympia.
Le 12 décembre.
Important, le 12 décembre, etc. Sur scène avec les dernières chansons de cet album, Cet Instant, et d'autres plus anciennes qui seront réorchestrées, réarrangées.
Toujours.
À la façon de ce dernier album?
Ah oui, alors ça c'est mon petit plaisir. C'est un petit peu comme si je crée une collection, mais c'est mes chansons, je les mets au goût du jour en 2019, voilà, elles vont ressembler à ça. Toujours prolonger les arrangements pour donner une nouvelle vie et garder une fraîcheur aussi.
La grande Sophie, Cet Instant, l'album vient de paraître chez Polydor. Merci d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Merci de nous avoir suivis pour cette émission préparée comme chaque semaine par Marina Pruzès, réalisée par Guillaume Vasso et Julien Blanc. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, 9h10, pour C'est arrivé cette semaine. Et dans un peu plus de 5 minutes sur Europe 1, ce sera l'heure du grand rendez-vous politique de la station. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Le grand rendez-vous avec pour invité aujourd'hui.
Brice Hortefeux, député européen LR, il nous dira si la droite peut disparaître ou renaître.
Avec CNews et Les Échos. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.